Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et aujourd'hui dans le programme, on a le plaisir d'avoir, il est à la campagne, Stéphane Houdet. Bonjour Stéphane, ça va ?
Bonjour Christophe, bonjour à tous, ça va bien ?
Alors, vie de confinement, vie de champion, comment on conjugue un peu tout ça ? Ça va pas être si simple que ça d'être un champion en cage comme ça.
Bah là, je crois qu'il n'y a même pas d'équation. Hein. Ce n'est pas vie de champion, vie de confinement, c'est uniquement vie de confinement. Et il se trouve que, petite particularité et point commun qu'on a eu tous les deux, c'est qu'en fait, j'étais aux États-Unis pour jouer un tournoi et je me suis blessé. Et je me suis blessé un peu avant le tournoi. Je suis parti en me disant que je vais essayer de jouer. Et de décalage au départ, du fait de la pluie en décalage, en report, on est tombé sur l'annulation pure et simple du tournoi le jeudi ou le vendredi, le jeudi. Et avec annulation dans la foulée du tournoi suivant, parce qu'on était parti pour faire une tournée de deux. Et donc, retour au pays. Et pour moi, ça a été un peu, au début, un soulagement que de ne pas prendre de risque à jouer avec une blessure. Et la suite du confinement, ça a été repos, soins, et soins, en plus, à la fois simples
et compliqués.
Et bloqués, puisque c'est une lombalgie aiguë que je me suis fait. Je pense que j'ai couru avec une prothèse de course en me décalant le bassin. Et en fait, sur un mouvement par la suite de tennis, j'ai senti une douleur dans le bas du dos. Et j'arrivais plus du tout à marcher, à me déplacer autrement que comme une personne très, très, très âgée. et le traitement de ça, c'est de rester actif, mais de marcher 5 minutes toutes les heures. D'accord. Pas besoin de faire de massage ou autre chose comme ça, ou en tout cas, pas en deuxième temps, deuxième intention. Donc, ça a été mon traitement, ça a été long. Et là, je dirais que ça fait 4 jours que je commence enfin à aller mieux et d'envisager de reprendre l'activité physique sans parler d'entraînement, puisqu'on est confiné.
Donc, comment on conjugue un peu tout ça ? Parlez-nous un petit peu de cette façon que vous pouvez avoir de garder le moral, parce que vous, il y avait les JO qui étaient là. Ils vous attendaient, les JO. Vous étiez dans vos têtes prêts à aller les faire, ces JO. Comment ça se passe dans la tête d'un champion de se dire, bon, voilà, l'année 2020, elle est peut-être blanche, il faut que je recadre et je redémarre tout pour l'année 2021 ?
Alors, au début, c'est en fait la chance aussi d'être un joueur de tennis. C'est-à-dire que les Jeux sont une épreuve parmi toutes les épreuves qu'on joue. Et finalement, qu'on joue celle-ci ou pas celle-ci, qu'on la joue en 2020 ou en 2021, j'ai l'impression que ça ne change rien du tout. Nous, on allait jouer Roland-Garros, Wimbledon, US Open, l'Australian. Donc voilà, les Masters, les Jeux étaient une épreuve parmi les autres. Après, apprendre que Roland-Garros est reporté dans un premier temps, pour moi, c'est une bonne surprise parce qu'on craignait une annulation. Wimbledon annulé. Là, on commence à voir effectivement l'impossibilité de jouer et donc pour nous d'avoir des revenus, même si on ne gagne pas toujours sur les épreuves. Mais le lien que je ferais, c'est un retour un peu comme quand on a un accident et qu'on se retrouve dans une chambre d'hôpital. Pour mon cas, ça a été pendant 6 mois à peu près. Et là, d'un seul coup, j'ai l'impression que c'est le monde entier qui est avec vous dans la chambre d'hôpital, chacun la sienne. Et on partage ce moment difficile, mais qui ouvre aussi de belles opportunités de résilience et de se dire que mais c'est une chance incroyable qu'on a de vivre sur cette planète et de parfois faire le tour du monde et de redonner du sens à la vie, aux relations humaines, à la nature. Effectivement, je me suis échappé à la campagne, mais j'ai le bruit des oiseaux, j'ai des animaux qui sont certainement plus présents qu'ils ne l'auraient été, surtout qu'ici, je suis dans un coin où il y a de la chasse. Donc, moi, je vois toujours ça comme une opportunité de relier ça au fait que la vie ne tient qu'un fil et qu'on a énormément de chance.
Alors, je voulais un peu justement qu'on en parle de ça, parce que vous avez eu votre accident et qu'il vous a fallu du temps un peu pour vous reconstruire, même mentalement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que pour vous, c'est d'être passé par tout ça cette année-là. Voilà, bon, c'est comme vous venez de le dire, c'est juste une autre période qu'il va falloir gérer mentalement. Et peut-être que quelqu'un comme vous peut avoir un avantage psychologique venant sur l'année prochaine parce qu'il y aura peut-être eu un peu moins de dilemmes dans la tête par rapport à ça.
Oui, c'est une évidence. Moi, je suis confiné avec ma femme qui, elle, travaille pour un grand groupe international et qui fait du télétravail. c'est une situation qui n'a pas le même impact sur elle que sur moi. Moi, je suis patient. Effectivement, je relativise en permanence. Je vois toujours le verre à moitié plein. Et certainement que le séjour à l'hôpital et le fait que quand la vie s'arrête parce que votre corps n'en peut plus, c'est une épreuve. Là, la vie s'arrête alors qu'on est pour beaucoup en bonne santé. Je pense que...
Vous pensez qu'on a peut-être le sentiment qu'il faut prendre ça comme si on avait fait pause sur une
Bah,
certaine façon, et puis c'est voilà, c'est une pause, et peut-être faut avoir une réflexion par rapport à cette pause.
en tout cas, moi, c'est la façon dont je le vois. Ouais. D'un seul coup, c'est pause. C'est pas une pause individuelle, c'est une pause collective. C'est une pause presque planétaire. C'est l'occasion de partager une pause qui correspond pour moi à une pause accidentelle que vivent beaucoup de gens dans leur vie.
Et vous savez, parce que vous avez des amis un peu dans le tennis, un peu partout, dans le monde, est-ce que vous savez comment les autres le vivent? Par exemple, votre grand-pote Nico, comment lui, il vit ça? Et peut-être, je sais, vous êtes assez proche de gens comme Nadal, par exemple, ou est-ce que vous avez eu le temps d'échanger? Peut-être vous faites vos petits Zooms ou vos petits Skype, ou est-ce que vous savez à quel point comment ils vivent ça, en fait? On a bien vu l'échange entre, je crois que Wawrinka est assez présent, par exemple,
Ah,
sur les réseaux
c'est
sociaux.
ouais.
C'est une star, hein, Stan la star, mais voilà, comment tout le monde vit ça?
Donc nous, effectivement, on a un groupe France sur lequel on échange. Et puisque vous parliez de Nico, il est très attaché à la famille. Ils ont une grande famille et ils nous partageaient hier une vidéo où en fait, ils sont ensemble, ils sont regroupés avec la famille. Il se sent comme un lion en cage, il a qu'une envie, c'est de sortir. Et d'ailleurs, je me demande si de temps en temps il sort pas.
Faut pas le dire, faut pas le dire, faut pas le dire.
Non, mais il y a des autorisations quand
C'est
même.
vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Après, non, je n'ai pas échangé avec Rafa pour savoir comment ça se passait. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que j'ai vu tout le monde se mettre à faire du mur. Et c'est quelque chose que j'ai découvert moi au mois de septembre en Sardaigne, pour des raisons complètement différentes. C'est qu'en fait, il avait plu et il y avait plus suffisamment de cours d'entraînement puisqu'ils avaient mobilisé les cours d'entraînement pour relancer des matchs. Du coup, avant les matchs, moi, j'allais faire du mur. Et j'ai retrouvé des sensations de quand j'étais gamin et j'ai retrouvé du plaisir à jouer contre le mur, à trouver des plans de frappe, à trouver un rythme, à retrouver plein de choses. Et du coup, quand je suis rentré de l'US Open, j'ai cherché un mur dans Paris et j'en ai trouvé un. Et tous les jours, j'allais jouer au mur.
Comme quand on a 7 ans, comme quand on avait 7 ans.
Et quand je racontais cette histoire, je la racontais même à Patrick McEnroe et John McEnroe quand on était ensemble à l'Australian Open, où je racontais que quand j'étais gamin, en fait, je jouais contre tous les joueurs du monde. Et je jouais contre le mur en disant Stéphane McEnroe, Stéphane McEnroe, Stéphane Borg, Stéphane Borg. Et bien sûr, je guidais le score de mon match. Et Patrick me fait la boutade, John me fait la boutade de me dire, bien sûr, c'est moi qui gagnais à la fin. Et j'ai souri en disant, bah non, bien sûr, j'ai battu tous les meilleurs joueurs du monde en trafiquant mon revers contre le mur en disant, ah, celui-là, il est gagnant, c'est Stéphane qui joue. Et hop.
Là, c'est
Et
sûr.
Patrick me disait qu'on l'avait tous fait. Et effectivement, après, j'ai relu des articles de joueurs qui parlaient de murs et on a tous grandi avec un mur. Et aujourd'hui, ça ressort. Donc, quand je vois Roger qui fait des murs, ça me fait marrer. Dans ma tête, j'avais que Sania Mirza qui jouait. Non, c'est pas Sania d'ailleurs, c'est Cara Black qui faisait un concours avec ses frères, celui qui allait taper le plus de fois en une minute la balle contre le mur.
D'accord,
D'ailleurs, c'est sur
d'accord.
YouTube. Hein,
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020? Comment vous voyez la fin de saison? Parce que c'est vrai que vous l'avez dit, Roland-Garros est pour l'instant reporté, Wimbledon est annulé, on quitte de l'US Open, c'est compliqué aussi aux États-Unis. Comment, pour vous, en tant que champion de tennis en fauteuil, on sait à quel point les tournois du Grand Chelem sont importants, mais il y a aussi plein de tournois en intervalle qui sont tout aussi importants pour vous. Comment l'année risque de se passer? Est-ce qu'il va falloir compresser tous les tournois différemment? Comment ça va se passer? Comment vous le souhaitez?
Bah, moi, ce que je souhaite, c'est jouer le plus de tournois possible à partir du moment où ça le sera. Donc, pour l'instant, on nous a annoncé juillet. Ça veut dire pour nous que le prochain, ça pourrait être l'US Open au mois de septembre, parce que nous, c'est fin août, début septembre. Après, compresser les tournois, je sais qu'il y a des discussions autour de. Par exemple, le British Open a été annulé Est-ce qu'ils peuvent le décaler? Alors, j'ai envie de dire que sur des super séries, donc un tournoi important pour nous, c'est possible. Mais sur les autres tournois, je vois pas comment ils pourraient compresser des dates qui sont déjà occupées par d'autres tournois et rejouer. À mon avis, ça va être une année très light en termes de tournois. Pour l'instant, le classement est gelé. Et puis, espérons qu'on puisse jouer l'Australian Open.
Et si justement là on dit le classement est gelé pour l'instant, c'est normal. Est-ce qu'il est gelé jusqu'à la fin de la saison? Est-ce que ça va être une année blanche? Est-ce qu'à un moment ils vont rouvrir le classement et là du coup ça risque de créer des problèmes? Parce que c'est mathématiquement compliqué aussi ça. C'est pas si simple que ça.
Non, mais le gel pour l'instant, par exemple, je prends la semaine prochaine, on devait jouer le Japan Open. Et si le Japan Open est gelé et le classement est, enfin, le Japan Open est suspendu, il est annulé ou reporté? Il est annulé. Il est annulé, il gèle les points. Ce que j'imagine, c'est que les points vont rester dans le classement jusqu'à ce qu'on rejoue le Japan Open l'an prochain.
D'accord. Donc pour vous, il n'y aura pas forcément une incidence hyper grave sur le classement. Du moment où ça va se redébloquer, il faudra partir directement.
Ouais, puisque de toute façon, comme on est toujours sur 52 semaines roulantes, on va continuer à être sur 52 semaines roulantes. Et dans une saison, nous, on a toujours plus de tournois. On a des tournois en attente. Alors effectivement, il se peut qu'on ait mieux joué pendant 6 mois, les 6 premiers ou les 6 suivants. Mais très souvent, ce sont des one-shots. Une fois en janvier, une fois en juin, une fois en novembre. Donc, comme on passe notre vie à défendre les points et que ça roule, j'ai pas l'impression qu'il puisse y avoir un changement majeur de ce côté-là.
D'accord. Allez, dernière question, parce que les JO, on en parlait il y a quelques instants. On sait à quel point c'est important. Donc, c'était forcément, je le suppose, hein, que les JO, c'était un Graal cette année, c'était important. L'année prochaine, ce sera la même chose. Est-ce que ça veut dire que la psychologie doit être un peu différente et sur la fin de la carrière, par exemple? Parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais c'est vrai que forcément, c'est des marqueurs. Il restera plus que 3 ans après, entre le JO de Tokyo et de Paris. Est-ce que forcément, du coup, on se dit, bah ouais, peut-être les 3 ans seront peut-être plus acceptables que 4 ans, ou pas?
Bah, en fait, à partir du moment où moi je m'étais dit je m'engage sur Paris, j'ai pas vu de fin post-Tokyo. Donc, qu'on joue en 2021 ou en 2022 ou en 2020, j'ai envie de dire que cette épreuve elle était parmi les autres. Donc, ça change rien pour moi. Et là,
D'accord.
je me serais préparé pour jouer l'US comme Wimbledon ou Roland. Là, on va jouer Roland. Non, 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 il n'y a pas d'impact pour moi et à mon avis pour les joueurs de tennis sur le fait de jouer en 2020 ou en 2021. La seule surprise et gros changement qu'il pourrait y avoir, c'est que la Fédération internationale de tennis a annoncé, sous la pression du comité paralympique, du comité international paralympique, une restriction médicale pour jouer et donc une sorte de testing médical revisité qui va faire que, ou en tout cas qui a été annoncé, pour le 1er janvier 2021. Donc certains joueurs ne pourront plus jouer. Et ceux-là sont directement concernés, à mon avis, par le changement, puisqu'ils pouvaient jouer en septembre n'importe quel tournoi. Et si on dit maintenant les Jeux sont 2021, sachant qu'ils ont annoncé une date de cut pour le 1er janvier, pour ces joueurs-là, oui, à mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de JO. Ça, c'est un point quand même, médaille d'argent à Rio en simple et en double. Aujourd'hui, je pense qu'il doit être 3 ou 4 mondiales. C'est Alfie Hewitt qui m'a battu en finale de l'US Open et qui a gagné contre nous la finale du double à Melbourne et qui a annoncé ça à Melbourne en disant voilà, c'est peut-être. Enfin, il était ému et on en a parlé après dans le vestiaire en disant que pour lui, c'était peut-être. Enfin, il était bien sûr ravi de cette victoire, mais cette victoire qu'il pourrait peut-être ne jamais défendre parce qu'on venait de lui annoncer qu'il ne pouvait pas. Jouer à partir du 1er janvier 2021. Donc nous, on s'est retrouvés dans les vestiaires après, et moi, ça fait des années que je milite pour qu'on fasse sauter ces règles de restriction médicale et au contraire, que le sport soit ouvert à tous, et que si vous, Christophe, vous avez envie de jouer, vous asseyez n'importe qui, et on joue ensemble, on arrête d'utiliser des mots de restriction en disant qu'il faut mal aller pour pouvoir jouer au tennis en fauteuil. C'est une forme de ségrégation pour moi qui est énorme. Bah là, c'est bouleversant, quoi. C'est un jeune joueur fort, c'est un adversaire qui nous donne du fil à retordre, qui a gagné beaucoup de choses, qui a encore beaucoup de choses à faire, qui s'est reconstruit avec le tennis fauteuil qui ne peut pas jouer en courant et à qui on dit stop.
Ouais,
Donc
mais
là,
ça, c'est
on a
pas terrible.
l'effet pervers de notre système qui, médicalement, restreint des joueurs.
Ouais, ça, c'est terrible, en fait, ouais, parce que
C'est
voilà,
terrible.
lui, il était prêt pour presque potentiellement finir une certaine carrière sur Tokyo. Et là, si c'est pas le cas, bah, ça risque d'être ouais, terrible pour lui, en
Alors,
fait.
mais déjà cette année 2020, pour lui, a été terrible parce que partir, jouer un tournoi en se disant que c'est sa dernière opportunité, il a choisi ça. Il a dit, moi, j'y vais, je vais jusqu'au bout, et il se bat, et il s'entraîne, il gagne, et il a ses émotions. Mais honnêtement, je pense que c'est ça le plus difficile, c'est de partir jouer en se disant, j'arrête. Alors, c'est pas j'arrête parce que je pars à la retraite, c'est j'arrête parce que j'ai plus le droit.
Ouais, j'ai plus le droit, on m'autorise plus à jouer, voilà.
J'ai 23 ans.
Et surtout, il n'y a pas de catégorie au milieu. Il n'y a plus de catégorie au milieu, il n'y a rien. C'est merci, au revoir. Merci pour tout, au revoir.
Exactement.
Ouais, c'est terrible. Merci
C'est ça.
Stéphane de nous avoir donné un petit peu de temps aujourd'hui.
Merci Christophe.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.